Les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Intensification des tensions entre le Burundi et le Rwanda. Une attaque meurtrière perpétrée à la mi-novembre par des inconnus contre une position avancée de l'armée burundaise près de la frontière avec le Rwanda exacerbe les tensions déjà vives entre les deux voisins. Bujumbura accusant désormais Kigali d'agression armée. L'attaque s'était déroulée dans la nuit du 16 au 17 novembre sur la colline de Twinyoni, à une centaine de kilomètres au nord de Bujumbura et moins de 5 kilomètres de la frontière rwandaise. 19 soldats burundais ont péri et une vingtaine d'autres ont été blessés dans cet assaut mené par des assaillants bien entraînés et équipés de lunettes de vision nocturne, selon des survivants de l'attaque. Violence en République démocratique du Congo, l'armée congolaise dit avoir retrouvé le corps d'un casque bleu de la MONUSCO, la mission onusienne en RDC, près de Beni, province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Côté ONU, on indique seulement que le pays d'origine et la famille de la victime doivent être officiellement informés et que l'identification va prendre du temps. Résultat, la MONUSCO ne va rien confirmer avant longtemps, a souligné un porte-parole de la mission onusienne après l'annonce de la découverte mercredi par l'armée congolaise. Au Tchad, suite à N'Djamena de l'affaire Mahamat Nouri Bedou, secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme, la CTDH. Une requalification des faits l'accuse désormais de complicité de meurtre. Timothée Donangmaï a joint à N'Djamena la militante des droits de l'homme Céline Naomadji.
Au lieu de continuer avec la première déposition pour diffamation, là, ils ont requalifié les faits par rapport à un de ces militants qui a commis l'homicide en 2014 avant de s'adhérer en 2016 à la CTDH. Donc, ils disent comment ils acceptent l'adhésion des criminels. C'est une association de malfaiteurs ou quoi, nous on ne sait pas, mais ils ont qualifié, requalifié pour nous envoyer chez le juge d'instruction qu'il l'accuse de meurtre et complicité de meurtre. Tout le monde est tombé de nu. Au moment où le collectif des barreaux internationaux des barreaux est en train de tenir la 34e session ici au Tchad, allez-y voir l'image de ce pays. Et une grande partie des participants à cette réunion-là ont désisté pour être avec nous jusqu'à ce qu'on vienne de se séparer.
Oui, qu'est-ce que cela signifie pour la suite?
C'est une injustice, c'est une cabale contre un innocent parce qu'il a dénoncé les mauvaises pratiques des clans au pouvoir qui a l'habitude de torturer les gens comme il veut. Ils ont des jardins pour torturer les gens et dans le Wadaï, tous les gens disent ça. Hein, les gens vivent la torture au jour le jour par rapport à un des neveux du président de la République. Ibedou communiquait à chaque fois sur ces cas-là. Et c'est parce qu'il communiquait sur ces cas-là, il a été menacé ouvertement, même sur les réseaux sociaux, qu'ils vont avoir sa peau.
Selon certaines sources, Céline, les personnes défendues par Ibedou se sont rétractées disant qu'elles n'ont jamais été victimes d'abus.
Quand la personne est dans cette zone-là, la zone de l'est du pays-là, où on a instauré l'état d'urgence, on a permis à ceux qui exercent ces activités en cette période-là de tuer. Le permis de tuer a été délivré par Déby lui-même. Quand il a dit s'il y a un conflit, il a tué 10 de l'autre côté, 10 de l'autre côté. Comment on peut justifier les humains, on peut justifier cela en demandant aux forces d'insécurité là d'abattre les gens parce qu'ils sont en conflit.
La militante des droits de l'homme Céline Naomadji jointe à N'Djamena en novembre. Rappelons que la CTDH avait dans un communiqué dénoncé les violations flagrantes des droits de l'homme commises par M. Bokit Bar Mahamat Itno sur des paisibles citoyens dans le Wadaï suite à la proclamation de l'état d'urgence dans le nord-est du Tchad.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Crise migratoire, au moins 58 migrants sont morts dans le naufrage d'un bateau au large de la Mauritanie. C'est ce qu'ont annoncé ce jeudi les autorités mauritaniennes et l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Il s'agissait pour l'essentiel d'immigrants irréguliers qui tentaient de rejoindre l'Espagne en provenance de Banjul en Gambie. D'après les premières informations recueillies auprès de la majorité des rescapés, le naufrage s'est produit mercredi à quelques 25 km au nord de la ville de Ouagadougou, à proximité de la frontière avec le Sahara occidental. L'OIM précise que 83 passagers ont réussi à rejoindre la côte mauritanienne à la nage. Le bateau était parti de Gambie le 27 novembre et les survivants ont dit à des employés de l'OIM qu'au moins 150 personnes, dont des familles et des enfants, étaient à bord. Au Mali voisin, deux organisations armées ont émis leurs conditions mercredi pour reprendre part au dialogue politique visant à dégager des réponses à la crise que traverse le pays. Les détails avec Eric Manirakiza.
La principale formation d'opposition refuse d'y participer. La coordination des mouvements de la Zawad, CMA, ex-rébellion à dominante Touareg, et la plateforme composée de groupes armés pro-gouvernementaux se sont elles aussi dissociées. Elles estiment que le président Ibrahim Boubacar Keïta a tenu samedi des propos ouvrant la porte à une remise en cause de l'accord de paix d'Alger. Le président Ibeka a mis sur les rails, en mai, un dialogue national dit inclusif, censé mettre les Maliens autour de la table et établir une feuille de route. Mais après des mois de consultations, cette initiative piétine. Les invitations avaient été émises pour réunir le 11 décembre le comité de suivi de l'accord d'Alger. La suspension des réunions de ce comité depuis des mois est considérée comme un autre motif de pessimisme. Dans un communiqué conjoint publié hier, les deux organisations disent qu'elles n'émettent pas d'objection à un éventuel retour au dialogue, mais elles ajoutent que l'accord d'Alger ne peut être modifié qu'avec le consentement express de tous les signataires. Elle réclame la création, dans les meilleurs délais, d'un cadre approprié pour discuter des modalités de leur participation.
Relations États-Unis-Soudan, les États-Unis ont donné mardi le coup d'envoi à une amélioration spectaculaire de leurs relations avec le Soudan en apportant un soutien appuyé à la transition démocratique dans ce pays, toujours formellement accusé par Washington de soutenir le terrorisme. Plus de précisions avec Irénée Hermann Umbo.
Les deux pays ont décidé d'engager le processus visant à échanger des ambassadeurs après une pause de 23 ans. Un ambassadeur américain va donc être nommé à Khartoum. Cette décision est un pas en avant dans le renforcement des relations bilatérales américano-soudanaises, particulièrement au moment où un gouvernement de transition dirigé par un civil met en œuvre de vastes réformes, a indiqué le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. L'annonce du renforcement des relations intervient en plein déplacement à Washington du premier ministre soudanais Abdallah Hamdok. C'est la première fois depuis 1985 qu'un chef d'État ou de gouvernement soudanais est accueilli par des responsables du gouvernement américain dans la capitale fédérale. Au département d'État, il a été reçu hier par le numéro 3 de la diplomatie américaine, David Haley, qui l'a félicité et a exprimé le soutien sans faille des États-Unis à la transition démocratique soudanaise. Il a appelé à terminer de mettre en place les institutions de transition et il lui a demandé l'aide de Khartoum dans le processus de paix chaotique au Soudan du Sud voisin où le gouvernement américain a récemment haussé le ton contre les belligérants incapables de se réconcilier.
Et pour terminer, en Afrique du Sud, le candidat de l'ANC au pouvoir a décroché le poste de maire de Johannesburg. Une défaite cuisante pour l'opposition qui occupait ce poste depuis 2016, John Lindon.
Geoff Makubo, candidat de l'ANC, a obtenu 137 voix contre 101 pour le candidat de l'Alliance démocratique et 30 pour celui des combattants pour la liberté économique lors d'une réunion du conseil municipal. Il vient remplacer Herman Mashaba, membre de l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, qui a démissionné en octobre, reprochant à cette formation son approche de la question raciale, toujours sensible dans le pays. Johannesburg se retrouve de nouveau entre les mains de Geoff Makubo, et des pilleurs professionnels de l'ANC, a réagi le parti d'opposition en référence aux soupçons de corruption qui planent sur le nouveau maire, qui est aussi un homme d'affaires. L'ANC, par la voix de son porte-parole, Poula Mabé, insiste sur le fait que Makubo n'a jamais été reconnu coupable. Yes, I.